Man, there's supposed to be 1.5 million people here by tonight. New York State Thruway is closed, man.
Hello to all friends, resistance, revolution in America.
We must be in heaven, man. There is always a little bit of heaven in a disaster area.
How are you out there?
La serie musicale di te. Woodstock, eterna, dai te. E la rima io.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Toute cette semaine dans la série musicale Woodstock, l'éternel été, où l'on cherchera à comprendre quel mur a fait tomber ou trembler ou pas ce rassemblement de musique Peace and Love. C'était il y a un demi-siècle. Aujourd'hui, vivre un autre monde.
Houston. Altitude du LEM 7500 pieds. Atterrissage dans 3 minutes 32 secondes.
OK, all flight controllers, go, no go for landing. Retro.
Go.
Fido.
Go.
Guidance.
Go.
Control.
Go.
Telcom.
Go.
GNC.
Go.
Ecom.
Go.
Surgeon.
Go.
Capcom, we're go for landing.
One small step for man, one giant leap for mankind.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom.
7.
Commencing countdown, engines on.
3, 2,
check ignition,
1.
And may God's love lift be off. With you. Sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do.
Bienvenue, bienvenue dans notre espace infini, dans notre champ des possibles, sur la propriété de Max Yasgur, fermier de l'État de New York aux idées larges qui accueillit des centaines de milliers de hippies chez lui alors qu'il n'en était pas un. Bienvenue dans l'univers de Woodstock où tout est possible, même le déluge, même le chaos et la confusion, même les sandwichs qui tombent du ciel, même les décibels sous la pluie et les solos sous acide, tout, même les miracles dans la boue. Sky is the limit, le ciel sera la limite de nos consciences pacifiques aujourd'hui. Et vous l'avez reconnu, ce ciel, cet espace que nous traversons, c'est celui de David Bowie, qui n'était pas à Woodstock. Et d'ailleurs, Woodstock n'a pas eu lieu à Woodstock, mais à une centaine de kilomètres près de Bethel. Mais David Bowie sort ce morceau, Space Oddity, l'année de Woodstock, juste avant le festival, en 69, en hommage aux premiers hommes, des Américains, qui vont se poser sur la Lune. 10 jours avant ce petit pas pour l'homme et ce grand bond pour l'humanité, Bowie sort cette BO de l'espace que la BBC va utiliser pour l'habillage sonore de la retransmission en direct du premier pas sur la Lune. Bowie chante « Je flotte » de la façon la plus étrange et les étoiles ont l'air si différentes aujourd'hui. Été 69. Alors que 68 a fracassé les rêves des groupes symboles de la contre-culture, l'espace fait désormais décoller les artistes. 'Aldrin' et 'Colin', un hommage avec le décompte en intro aux trois astronautes américains en mission sur la Lune par The Byrds, un groupe qui n'était pas non plus à Woodstock, tout comme les Stones, les Beatles ou les Doors, qui seront donc les grands absents du festival pour différentes raisons. 50 ans plus tard, le vice-président américain Mike Pence annonce qu'il veut que l'Amérique retourne sur la Lune et Buzz Aldrin, l'un des astronautes à qui cette chanson rendait hommage, le soutient. Il propose même qu'en cette période troublée, les États-Unis entreprennent, je cite, « tout pour ouvrir la voie à une migration de l'humanité vers Mars ». Mais revenons à ce 21 juillet 69, qui est donc un jour heureux en Amérique et aussi plus prosaïquement, un jour de victoire pour une petite équipe qui cherche à louer une terre plutôt qu'à s'envoler dans l'espace et qui s'active dans l'État de New York pour préparer le plus grand festival de paix et d'amour jamais organisé. C'est l'équipe de Woodstock, pilotée par le charismatique Michael Lang, qu'on voit téléphoner, chevaucher des collines à moto ou à cheval, sans jamais, jamais quitter son gilet sans manches en peau de mouton, ni coiffer sa tignasse bouclée. Et en juillet, Mike Lang vient enfin de trouver une terre promise après avoir été débouté de Woodstock et de sa région qui devait accueillir le festival à l'origine. Mais les habitants étaient terrifiés à l'idée de se faire envahir par les hippies. In extremis, miraculeusement, trois semaines avant le fameux 15 août 69, l'équipe s'installe à El Monaco. Elle installe ses bureaux dans ce petit motel des Catskills et c'est le fils du gérant, Elliot Tiber, qui est aussi le directeur de la chambre de commerce du coin, qui les a aidés à convaincre les autorités. Ce qui lui vaudra quand même de se faire harceler et traiter de sale juif homo par certains voisins. Ce nouveau lieu providentiel, c'est donc un amphithéâtre de verdure naturelle à White Lake, près de Bethel, à une centaine de kilomètres du fameux village d'artistes de Woodstock où vit Bob Dylan. Mais comme les billets et les affiches avaient déjà été imprimés, et ben quand l'équipe trouve enfin ce lieu, le nom de Woodstock reste éternellement associé au festival. Un signifiant qui est devenu une marque sacro-sainte, une sorte de Hollywoodstock, un bois sacré ou plutôt un champ des possibles sur lequel, dit-on à l'époque, va naître une nation. Cette nation, c'est la nation de Woodstock, celle de la marge, de l'underground, qui vient pour un temps au moins mainstream avec le succès du festival. Un festival dont le New York Times fait la pub en promettant des hectares de nature et des heures de musique sans gratte-ciel ni feu rouge à l'horizon. Bref, un ailleurs pour se retrouver aux côtés de tous ceux qui questionnent leur identité et celle de leur pays.
A slight reflection of everyone. Was it me who let you walk away? Were you the one, or is it we're the same? What are we in time going by?
Going by
the simple story of a younger life.
Younger life.
Dreams and somehow through the day we
you the one, or is it we're the same?
Who Am I par les Mountains en live à Woodstock, ou plutôt à Bethel. C'est un extrait d'un coffret qui s'appelle Back to the Garden, sorti cet été pour célébrer les 50 ans du festival, avec des inédits, parfois un son un peu rock'n'roll, mais qui traduit l'ambiance de cette fête historique. Dans ce morceau, les Mountains, qui est un groupe américain, rend hommage à un des hommes clés du festival, tout simplement parce qu'il a rendu l'événement possible. Cet homme, c'est Max Yasger, le fermier qui a accepté de louer son champ à la jeune société Woodstock Venture. En 69, l'été est humide, et Max Yasger se demande s'il aura assez de fourrage pour ses bêtes. Alors, quand l'un des organisateurs de Woodstock, Mike Lang, surgit avec un chèque de 10 000 dollars, Yasger se dit que c'est une aubaine. Puis, Michael Lang réussit à convaincre l'éleveur qu'il y aura peut-être un peu plus de monde, mais que ça n'abîmera pas son champ. Max Yasger deviendra donc le premier agriculteur rockstar, il aura sa bio dans un disque de rock, et il va parler devant plus de 500 000 jeunes.
I'm a farmer. Crowd like this. But I think you people have proven something to the world.
Et voilà donc ce fermier d'une cinquantaine d'années qui s'adresse à cette foule de jeunes. Il explique que d'habitude, il ne parle qu'à une seule personne à la fois. Et il félicite ces jeunes qui ont, dit-il, prouvé quelque chose au monde. Pas seulement à l'État de New York, hein, mais au monde entier. Ils ont prouvé, dit-il, que rassembler une telle foule pacifique, c'est possible. Même si, dit-il, un tel nombre de spectateurs sur son champ, d'habitude piétiné par des vaches, c'est une surprise. Alors, l'eau et les vivres manquent, mais ne vous inquiétez pas, les organisateurs vont trouver une solution. Voilà un des murs que Woodstock a peut-être fait tomber. La distance entre les rockstars et le public, entre les artistes et le monde terre-à-terre d'un festival, où le site, l'organisation et même l'esprit vont devenir aussi cruciaux que les performances et les solos de guitare. À Woodstock, les organisateurs sont vite débordés. Dès le premier jour, le rêve se fait rattraper par le réel. Trop de monde, beaucoup plus que prévu, d'autant que face aux manifestations hostiles du voisinage, jets d'ordures, insultes et autres menaces d'empoisonnement des puits pour faire fuir les hippies, les organisateurs ont décidé d'inviter les médias. Et ils ont même lancé un appel sur NBC, la radio, à venir au plus vite sur le site du festival pour assister, je cite, à la naissance d'une nation, la nation Woodstock. Résultat, chacun abandonne sa voiture et les routes se transforment en parking. Les stars vont devoir arriver en hélicoptère et elles planent au-dessus de centaines de milliers de tentes de toutes les couleurs qui se montent. Le site est vite déclaré zone sinistrée, les barrières s'effondrent et le festival devient gratuit. La solidarité s'organise, mais il faut trouver à manger, des toilettes et échapper au mauvais LSD.
I am informed that somebody somewhere is giving out some flat blue acid. It is poison. That's deadly serious, man. I just informed we got 4 or 5 people who are a little sick from it. 15.
Un stand de vente de hamburgers a aussi brûlé pendant la nuit, peut-être parce que ces burgers étaient vendus trop cher, 1 dollar, soit 4 fois le prix normal. Alors certains habitants du comté de Sullivan s'organisent et ils fabriquent eux-mêmes 10 000 sandwichs qu'ils vont balancer par hélicoptère. On apporte des milliers d'assiettes en carton de New York et les membres de la Hog Farm, une communauté hippie de Californie, s'active gratuitement au fourneau. Le dénommé Wavy Gravy a même un projet pour les festivaliers trempés par la pluie.
Good morning. What we have in mind is breakfast in bed for 400,000.
Il propose le petit déj au lit pour 400 000 personnes. De la bonne nourriture, hein, dit-il. On va vous l'apporter. Et ce n'est pas juste ma communauté, la Hog Farm. Ici, on se nourrit les uns les autres. On doit être au paradis, non ? Parce qu'il y a toujours un coin de paradis dans une zone de désastre, dit-il. Et il conclut en disant qu'il reste encore des hamburgers dans le stand du gars dont le stand a brûlé la nuit précédente. Ceux, dit-il, qui ne sont pas effrayés par le capitalisme, ceux-là peuvent aller en acheter. Dès le premier jour, les organisateurs sont débordés. En permanence, des centaines de jeunes affluent avec l'attirail étrange de la vie en marge. Tentes et sacs de couchage, pieds nus et cheveux longs ou hirsutes, vestes à franges, bijoux indiens, pilules ou sacs d'herbe en poche et signes peace and love autour du cou.
Ladies and gentlemen, Mr. Arlo Guthrie.
From London, from over the pole, flying in a big airliner, oh, chicken flying everywhere around the plane. Could we ever feel much finer coming into Los Angeles, bringing in a couple of keys? Don't touch my bags if you please, Mr. Customs Man. With the ticket to Mexico, no, he couldn't look much stranger. Walking in a hall with his things and all, smiling, said he was a Lone Ranger. Coming into Los Angeles, bringing in a couple of keys. Don't touch my bags if you please, Mr. Customs Man.
Coming to Los Angeles, tube d'Arlo Guthrie qui raconte les péripéties d'un hippie qui traverse les frontières avec des substances illicites pour aller à Los Angeles. Et vous l'entendez, Arlo Guthrie avait lui-même consommé du LSD avant de monter sur scène. Donc ici, il ne donne peut-être pas sa meilleure version de cette chanson qui évoque combien les hippies et les jeunes sont mal vus lorsqu'ils voyagent. Nous l'avons vu hier dans le film Easy Rider. les murs ne sont pas encore tombés en 1969. Alors, pour ne pas trop effrayer les braves gens, les voisins du festival, alors que les relations avec eux ne sont pas du tout peace and love, l'affiche de Woodstock est très loin des clichés psychés. Sur un fond rouge, il y a juste une paisible colombe blanche posée sur un manche de guitare avec ce titre officiel du festival, Exposition du Verseau. Ça, c'est une référence astrologique à l'ère du Verseau dans laquelle l'humanité entrerait, un thème popularisé notamment par la comédie musicale Air, mais qui reste encore codé pour les non-hippies. Sur l'affiche, on lit donc Aquarius Exposition à White Lake, 3 jours de paix et d'amour, avec son marché artisanal, à manger, des centaines d'hectares, ou je cite, des hectares où errer, bref, la promesse d'une parenthèse un peu boy scout en cet été orageux. Janis Joplin et Summer Times, un hommage à Gershwin live à Woodstock en cet été 69, où les murs entre consommation culturelle et vacances vont tomber pour bientôt se confondre. En 1969, on va aussi au festival pour toucher du doigt une utopie impossible à concrétiser en plein hiver aux États-Unis. On vient aussi pour avoir la possibilité d'être surpris, notamment par l'improvisation au pouvoir ces jours-là. À 17h, heure officielle du début du festival en ce vendredi 15 août 69, aucun des artistes n'est encore arrivé. Ils sont soit coincés sur les routes, soit planqués morts de traque. Alors celui qui va ouvrir le festival n'était pas prévu à l'affiche. Il est venu en voisin.
Let's welcome Mr. Richie Havens.
Thank you. Richie Evans se retrouve donc devant des centaines de milliers de spectateurs, mais il est quasiment inconnu et surtout, il n'a rien à voir avec le rock psyché porté par des chanteurs plutôt blancs invités à Woodstock, Jimi Hendrix et Sly Stone mis à part. Evans, lui, est un songwriter qui a appris à chanter dans les églises noires de Brooklyn et il arrive un peu par hasard avec un percussionniste au look très black power, au congas. Richie Evans, lui, porte une longue robe orange et au départ, il ne veut même pas monter sur scène, mais les organisateurs le poussent. Alors, Richie Evans improvise.
Turn the guitar off, Mike, please. Guitar, Mike.
Comme d'autres artistes, Richie Evans va quasiment naître sur la scène de Woodstock parce qu'au bout d'un moment, il est à court de chansons. Alors il a une idée de génie, il improvise une litanie de Freedom sur le gospel Motherless Child.
Freedom, freedom, freedom.
Freedom devient l'un des tubes de Woodstock et celui de Richie Evans. Une autre artiste inconnue va aussi se retrouver sur scène un peu par hasard. Elle s'appelle Melanie et elle habitait à New York dans le même immeuble que celui des organisateurs du festival. Elle est quasi inconnue, mais après Woodstock, elle va vendre plus de 80 millions de disques. Melanie arrive avec sa mère et elle monte sur scène parce que The Incredible String Band refuse de jouer sous la pluie. Alors, elle se lance.
Same world as I do, but somehow I never noticed you before today. I'm ashamed to say. Beautiful people, we share the same back door and it isn't bright. Met before, but then we may never meet again. If I weren't afraid you'd laugh at me, I would run and take all of your hands, and I'll gather everyone together for a someone with but a none as you. Include him in everything you do. Beautiful people, you ride the same subway as I do every morning. Well, that's gotta tell you something. We got so much in common. I go the same direction you do. So if you take care of me, maybe I'll take care of you.
Lorsque Mélanie chante cette chanson, Beautiful People, en hommage aux hippies, il pleut sur le festival. Et une forêt de briquets et de bougies s'allume sur les collines où les spectateurs sont assis. C'est la première fois que des flammes dansent dans le public lors d'un concert. Mais pas la dernière, même si aujourd'hui les briquets sont désormais remplacés par les écrans de téléphone portable qui scintillent pour allumer une communion en live. Mélanie dira plus tard que lorsqu'elle chantait ce jour-là, elle avait l'impression d'être en dehors de son corps, sans avoir pourtant pris aucune drogue, mais elle était portée par cette ambiance quasi mystique et par ces petites lumières dans la nuit. La foule prend alors conscience de son pouvoir magique.
Stand up and walk out on it. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Oh baby, how did I? Well, I need it, but I. Tell me when you say no more. Oh, I can love my friend. I got to buy a thing. Everybody got the love I need. Well, I'm on the
Et la pluie fut, un orage même, un déluge quasi biblique dans cet amphithéâtre naturel, le pré du fermier Maxi Asbier. De quoi conférer une aura un peu magique à l'événement. Les Grateful Dead qui joueront plus tard manqueront même de se faire électrocuter sur scène. Thank you.
being. How can we hang on to a dream? What can I say? She's walking away from what we've seen. What will I try? I still don't know why. It's all a dream. How can we hang on? How can we hang on to a dream? How can it really be the way you think? She's saying we're through with how it was. What will now I try? I still don't know why. She says what she does. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seemed to be? How can we hang on to a dream? One more what she does. I want so bad to hang on to a dream. I want it to be the way it seemed to be. How can we hang on to a dream? Can it really be the way it seems? How can we hang on to dream?
Woodstock, qui est ce film gigantesque, sans doute celui à la plus grande figuration de l'histoire du cinéma, je suppose. Puisqu'il y avait 500 000 figurants.
On laisse même entendre vers la fin du film qu'il y a près d'un million de personnes.
Oui, un million, oui.
Il y a un espèce de prodige qui se passe sur l'écran à un moment donné, c'est que le film, l'événement lui-même devienne cosmique. C'est-à-dire que je crois que le plus beau passage du film est le passage où tout d'un coup arrive l'orage. Et toutes ces personnes qui sont entassées, 50 000 personnes entassées, presque nues sous le soleil, et qui tout d'un coup sont noyées par le déluge, par la pluie, par la boue, et qui tous, par une même volonté, décident d'arrêter la pluie, se mettent à crier non à la pluie, je crois que là, on atteint vraiment à quelque chose d'assez prodigieux, d'assez étonnant.
Cette espèce de réaction de masse, de collectivité qui se bloque, qui se noue en une seule masse, rappelle assez curieusement le triomphe de la volonté, le film qui a été fait sur les fêtes hitlériennes d'avant la guerre. Je ne parle pas de comparaison de réaction des foules, je parle simplement de cette espèce d'état de violence, de tension
et
de transe.
Je crois quand même que c'est le contraire.
Il y a quelque chose d'inquiétant et de menaçant dans cette forme d'unanimité brutale, cette manière de scander, scander et de créer... d'arriver jusqu'à un certain état d'hypnose qui est évident.
Ah, c'est la communication.
Et personnellement, cela me gêne.
Bon,
ça me gêne.
Marc Abru est approuvé par une partie de la salle.
Talking about the cosmic blues. You know what I mean, man. If you don't know what I mean, you will soon enough. So... time
keeps moving on. Friends, they turn away. Hey. I'll keep moving on, but I never found out a way. I keep putting it on a babe. I keep trying to make it right to another lonely day. Whoa.
Je n'avais jamais vu ça dans ma vie. Et j'ai l'impression que ça va être très important sur un plan, non pas cinéma, mais sur un plan sensibilité. Que nous découvrons une espèce d'univers dément, et qui est aussi un univers un peu fasciste, il faut le reconnaître, quoi. Quand ce groupe noir chante ailleurs et que toutes les 500 000 types qui sont là lèvent la main et font ailleurs, ailleurs. On a l'impression d'être au congrès de Nuremberg.
Bon, mais ah si oui, je... au congrès de Nuremberg tout de même, mais où les gens sont à poil et...
On a quand même plus entendu. C'est le film qu'on a fait de la grande manifestation hippie de Woodstock qui s'est passée l'été dernier près de New York.
Hein. Merci Nicolas Dravoud.
500 000 hippies étaient rassemblés.
Take You Higher de Sly and the Family Stone, un des rares groupes interraciaux à jouer à Woodstock et qui va littéralement réveiller et faire se lever la foule aux alentours de 4h du matin le dimanche, juste après le passage de Janis Joplin. Et puis vous l'avez reconnu, juste avant, c'était l'émission Le Masque et la Plume, animée par Michel Pollack à la sortie du film Woodstock en France en 1970 et à sa première projection à Cannes en 1969. Si Woodstock a bien fait tomber un mur, c'est peut-être celui qui sépare les mémoires collectives. Grâce à ce film de Michael Wildegg, tourné pendant le festival à un moment où les sursauts de l'histoire commencent à imprimer les esprits en images, avec par exemple les premiers pas sur la Lune ou les points levés des athlètes noirs au JO de Mexico en 68. Le film embrasse cette jeunesse, cette masse de centaines de milliers de personnes venues oublier la guerre du Vietnam et leur quotidien dans la nature. Mais le réalisateur s'intéresse aussi aux individus pris dans cet impératif collectif de liberté et d'autogestion où le premier acte politique est de prendre son destin en main, même de façon très terre-à-terre, ne serait-ce que pour rester au sec ou trouver à manger. Le public fait donc partie du spectacle, comme dans la guerre de Troie de Giraudoux. Il décidera du dénouement dramatique de ce festival où tout peut basculer et où un individu seul peut entacher la mémoire de l'événement. On le verra au festival d'Altamonte demain.
It's like people that are nowhere are coming here because there's people that they think are somewhere, so everybody is like really looking for, you know, for some kind of answer, you know, where there isn't one. I think, you know, because like why would 300,000, 120,000, 60,000, 70,000 people come to anything, you know, like just because it's music, you know? I mean, was music all that important? I don't really think so, but people don't know, you know, they don't know how to live and they don't know what to do, and they think that if they can come here they can find out, you know, what it is or how to maintain with it. It's just like people are very lost.
Et dans ce film Woodstock, on découvre ce jeune homme solaire au regard azur qui vient de parler et qui explique que les gens qui viennent à Woodstock sont nulle part en quelque sorte et qu'ils viennent là parce qu'ils croient qu'ils vont trouver les réponses à ce qu'ils cherchent. Ce n'est pas la musique que cherchent ces centaines de milliers de personnes. Ils ne savent juste pas qui ils sont ni comment vivre. Alors ils pensent qu'en venant ici, ils vont le savoir, dit-il. Selon lui, les gens sont un peu perdus. Et c'est une scène importante du film qui ralentit à ce moment-là et qui se pose avec ce jeune homme et avec sa copine et les questionne sur leur rapport à leurs parents. La jeune fille se dit libre et elle explique qu'elle les a quittés il y a 2 ans pour aller sur la route, mais que sa mère pense littéralement qu'elle ira en enfer pour avoir fait ça. Derrière le drame de la scène géante qui se construit sous nos yeux dans le film, avec ses galères et ses crépuscules enchantés, comme dans toutes les grandes messes musicales qui vont suivre dans les années à venir, derrière ce péplum et ses 500 000 figurants, il y a des drames intimes et des murs d'incompréhension. Et c'est ce que montre le jeune Martin Scorsese, qui est l'assistant et le monteur de ce film, en utilisant le split screen pour souligner les 2 niveaux de lecture qui donnent une portée historique au film et donc au festival. Depuis, Martin Scorsese ne met toujours pas de jean ni de barbe, mais il a pris du recul et cette année, il écrit la préface de Woodstock, un livre paru aux éditions de La Martinière. Il dit « Aujourd'hui, on idéalise l'esprit de Woodstock, mais je suis convaincu que les choses auraient pu mal tourner. On a tout de suite compris qu'on participait à quelque chose qui dépassait le simple concert de rock et que c'était peut-être un événement historique. Et pourtant, sans le film, le festival serait une note de bas de page de l'histoire sociale et culturelle des années 60. »
I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, said he. I never died, said he.
John Baez n'est pas une note de bas de page de la culture américaine, c'est une véritable icône des 60s qui clôture donc ce concert du vendredi. Et pourtant, elle monte sur scène comme en famille, face à la foule. Elle partage son drame personnel du moment et elle commence par donner des nouvelles de son mari, qu'elle appelle David. Ce David, c'est David Harris, que la foule connaît parce que c'est un avocat qui refuse d'aller à l'armée. La police est venue l'arrêter à leur domicile 15 jours plus tôt. John Baez est alors enceinte de lui et elle raconte qu'il va bien, même s'il est toujours incarcéré. Il sera d'ailleurs condamné à 20 mois de prison pour avoir refusé de servir sous les drapeaux et avoir encouragé d'autres à désobéir. C'est sa chanson préférée, dit John Baez. C'est Joe Hill qu'on entend en ce moment, une chanson traditionnelle dédiée à un ouvrier gréviste condamné à mort en 1915 pour un crime qu'il n'avait pas commis. Went on to organize, went on to organize. From San Diego up to Maine, in every mine and mill, where working men defend their rights, it's there. I saw Joe Hill last night, alive as you or me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, said he. I never died, said he.
I think the politics of this event is about freeing John Sinclair from prison, who's facing 10 fucking years for 2 joints of marijuana while we're all sitting here digging rock music. That's the politics of the situation.
Cette voix n'est pas celle d'un artiste, mais d'un militant qui a fait une irruption imprévue sur la scène de Woodstock. C'est l'activiste Abby Hoffman du mouvement des hippies.
I can dig it.
Sur scène, Abby Hoffman se fait pousser par le guitariste des Who parce qu'il veut interrompre leur concert pour éveiller les consciences des participants de Woodstock, en tout cas pour les alerter sur l'incarcération injuste pour lui de John Sinclair, le manager des MC5, mais surtout le leader des White Panthers, condamné à 10 ans de prison pour avoir donné 2 joints d'herbe à un policier en civil. Abby Hoffman est donc virée de la scène par les musiciens agiles malgré les franges de leurs vêtements et la foule applaudit. The show can go on.
Got to play pinball and put in your earplugs, put on your eye shades. You know where to put the cork. Hey, you get drunk, so sorry. I got too sus.
I'm gonna take it.
The Who, We're Not Gonna Take It Live à Woodstock, un concert interrompu par le militant Abby Hoffman. Mais depuis Woodstock, des murs sont tombés, ou plutôt se sont érigés, entre la scène et les festivaliers. Dans les gros festivals, on circule désormais avec des bracelets, des badges ou des autocollants de couleurs différentes pour atteindre telle ou telle partie des loges. En général, les photographes n'ont le droit de s'approcher de la scène que pendant les trois premiers morceaux. Et certains festivals, comme les Eurokéennes par exemple, ont carrément mis en place des circuits parallèles pour se déplacer selon que l'on est VIP ou simple spectateur. Et puis bien sûr, les scènes sont gardées par des molosses. Alors il semble difficile aujourd'hui de faire passer un message politique sur une grande scène d'un festival sans l'accord de la direction.
Give me an F! Give me a U!
U!
Give me a C!
C!
Give me a K!
A!
What's that spell?
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 A!
Well, come on, all of you big strong men. Uncle Sam needs your help again. Got himself in a terrible jam, way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun. We're gonna have a whole lot of fun. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. Woo-hoo, we're all gonna die. Now come on, Wall Street, don't be slow. Why, man, this is war, a go-go. There's plenty good money to be made, supplying the army with the tools of the trade. Just hope and pray that if they drop the bomb, they drop it on a Viet Cong. And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, I ain't no time to wonder why. We're all gonna die. Now come on, generals, let's move fast. Your big chance is here at last. Now you can go out and get those reds, cause the only good commie is one that's dead. You know that peace can only be won when you're blowing them all a kingdom come. Sing it! One, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn.
Louder!
Vietnam. And five, six, seven. Open up the pearly gates. Well,
listen, people, I don't know how you expect to ever stop the war if you can't sing any better than that. There's about 300,000 of you fuckers out there. I want you to start singing. Come on.
And it's one, two, three. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam.
Et celui dont le message politique restera jamais associé à Woodstock, c'est bien lui, Country Joe McDonald, qu'on vient d'entendre, faire se lever toute la foule de Woodstock et crier le fameux F, U, C, K, fuck pour rejeter la guerre du Vietnam. Il est alors 13h30 et ce jeune inconnu en treillis est poussé sur la scène, seul parce que son groupe n'est pas encore arrivé sur le site du festival. Et c'est avec ce clin d'œil à ce que font les pom-pom girls avant les matchs en faisant épeler le nom des équipes que Country Joe entre dans l'histoire du happening politique musical contre la guerre du Vietnam. Fuck.
And it's five, six, seven. Open up the pearly gates. Well, ain't no time to wonder why. We're all gonna die. All right.
Ladies and gentlemen.
Jimi Hendrix, bien sûr, entrera lui aussi dans l'histoire du happening musical contre la guerre, mais en version plus mutique, avec sa fameuse reprise distordue de l'hymne américain au son des canons.
Il y a mille autres façons d'arrêter
alors
une guerre.
Alors il faut faire
si vous voulez que se réunir
tout
à 500 000 en train d'écouter de la musique pop.
Thank you.
sing a simple song of freedom. I know you want to hear me, so why don't you sing it yourself like you never sung before? Let it fill the air.
Aujourd'hui, notre vague estivale Peace and Love est arrivée sur vos ondes grâce à l'immense Jean-Christophe Francis à la réalisation, notre chef hippie, et grâce à notre Sound Lady qui pourrait mixer devant 500 000 spectateurs, Laurie Vachon à la technique, avec un grand merci à notre campeuse de luxe Zineb Souleimani, à notre poète Anis Signoret de la bibliothèque de Radio France, ainsi qu'à notre équipe et sauvage aux Archivina, Marine Decamp et Christelle Rousseau, sans oublier nos vivres discographiques délivrés par tous les temps, même orageux, par Romain Couturier à la discothèque de Radio France. Voilà, c'était La Série Musicale, une émission proposée par Elodie Maillot. À demain. Please sing it. Sing it like you've never sung before. Let it fill the air. Tell the people everywhere. We, the people here, don't want a war. Brother Ivashenko, are you listening? If you hear a friend, won't you drop me a line? Tell me if the man who is plowing up your land can I sing a simple song, song of freedom? Sing it like you never sung before.